5 minutes pour respirer, 5 minutes pour s'aérer, 5 minutes contre la pression qui monte. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bien ravie de vous retrouver pour créer du lien dans cette émission, puisque la respiration, c'est ce qui nous relie. Je suis très très heureuse aujourd'hui d'accueillir Lorenza Garcia, qui publie 20 ans auprès des Navarros, Ozo, mon chemin sur la voie de la beauté, chez Mama Édition, et notre thème sera « Marcher dans la beauté ». Alors, on commence par une chanson de Lorenza, Morning Song, extraite de l'album La Beauty.
Si tu te sens perdu, fatigué, lassé par tes tourments, lève-toi le matin. Si ton âme est prisonnière par tes tourments, lève-toi le matin très tôt et regarde.
In me, young day, young day.
Eh bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour Lorenza.
Bonjour, comment vas-tu, chère Louise?
Je vais bien, et j'espère toi aussi. Mais je vous vois dans l'émission, si tu veux bien. Alors, je disais en aparté que ce chant nous fait du bien, il nous ouvre un espace. Alors Lorenza, vous êtes réalisatrice, artiste, peintre et chanteuse. Et vous êtes engagée aux côtés de la culture dînée. Vous avez créé l'association Navarro France. Et vous publiez aujourd'hui 20 ans auprès des Navarros, Ozo, mon chemin sur la voie de la beauté, aux éditions Mama, qui retrace donc votre parcours et vos actions pour soutenir cette culture. Alors on commence un petit peu par votre histoire. Vous êtes d'origine italienne et espagnole. Et la musique rentre très tôt dans votre vie. Alors là, je vous laisse la parole.
Oui, en fait, le tu et le vous. Je reviens des États-Unis et nous, on a tendance à dire, quand on est aux États-Unis, le you, en fait.
Bon, alors que... si tu te sens mieux, on fait you pour toi, exceptionnellement.
Merci beaucoup. Oui, la musique, bien sûr, la musique adoucit les mœurs. La musique, comme l'art en règle générale, est un outil qui permet d'exister. Et je suis certaine que la musique a formé mon éducation. J'ai l'impression d'être à l'écoute, d'être une personne qui est à l'écoute, donc à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur de moi, à l'écoute du rythme, parce que je suis sensible au rythme, étant d'origine espagnole, où la cadence, où le rythme est très essentiel dans les phrasés du flamenco, dans les pas précipités des danseurs et des chanteurs de flamenco, mon père étant d'Andalousie. Et puis aussi le rythme, un autre rythme qui est le rythme de l'Italie, parce que ma mère est italienne. Et l'Italie, c'est une voix pour moi qui chante beaucoup. Qui ne fredonne pas, mais qui chante. Et elle est accompagnée de gestes. Lorsqu'on voit les Italiens parler, on voit qu'ils sont très animés par leur façon d'exprimer les choses. Et donc, la cadence, la fluidité des voix italiennes et aussi les gestes a fait de moi une personne qui, non seulement est à l'écoute, mais aussi qui est dans un rythme spécial.
Alors c'est vrai que c'est la langue du bel canto aussi. Hein.
Absolument.
C'est une langue du chant. Mais vous avez aussi un intérêt pour la peinture, Lorenza.
Oui, alors donc mon intérêt pour la peinture vient aussi du fait que ma mère peignait beaucoup dans son petit coin. Elle avait toujours des petits pinceaux comme ça à côté d'elle et des couleurs. Donc j'ai été touchée par ça. Et j'ai été, lors de mon éducation scolaire, dirigée très rapidement vers les beaux-arts. Et donc, avant de rentrer et de passer le concours d'entrée aux beaux-arts, j'ai pu participer à l'élaboration de la connaissance autour de l'art graphique dans un atelier qui s'appelait l'atelier Baudry. Et j'ai été très influencée par certains peintres, essentiellement des peintres qui ont réussi à relier le symbolisme, l'art abstrait et évidemment le monde invisible.
Alors, vous parlez, vous évoquez, tu évoques, c'est difficile, hein, on a des patterns de fonctionnement. Moi, je suis habituée à vous voyer.
C'est très bien vous.
Alors, Jackson Pollock est ton peintre, un peintre important pour toi.
Absolument. Jackson Pollock a été et reste toujours un artiste pour moi novateur. Il a exercé une influence déterminante sur le cours de l'art contemporain, c'est ce que je ressens. Ces thématiques qui sont entre le sacrifice, entre la mort, entre la fusion, mais aussi entre le rapport animal et aussi toujours fusion homme-animal, entre la fusion entre homme-femme et naissance. Et selon moi, il a abordé des thèmes universels dont la quête picturale est investie par ce qu'on appelle aujourd'hui le chamanisme. Absolument. Et puis, il a aussi été, et ça, je ne le savais pas avant de rencontrer les Navajos en 1996, mais il a vécu dans l'Ouest américain et dans l'Arizona, et il s'est identifié aux Indiens des territoires avoisinants, très très jeune. Dès l'âge de 11 ans, il a rencontré des groupes amérindiens qui lui ont parlé de rituels. Et donc, il n'avait aucune idée de ce que représentait le rituel pour ces personnes-là, pour ces amérindiens. Et donc, il a eu une rencontre décisive durant son évolution artistique. Et cette rencontre a eu lieu lors de l'Indian Art of the United States en 1941 au MoMA, qui est le muséum de l'art moderne situé à Manhattan. Et durant cette exposition, il y avait des Navajos qui réalisaient des peintures de sable. Et je pense que ça a été une détermination pour lui par rapport à sa démarche artistique.
Oui, un élément déclencheur qui va vous arriver également. Hein.
Oui.
Mais avant cela, pour un peu nourrir encore votre biographie, donc on vous suit au début, dans, vous posez la situation donc, de votre histoire. Mm-hmm. Donc vous avez deux enfants et on vous suit un petit peu au fil aussi de séparation. Mm-hmm. Ce qui fait la vie d'une femme, d'un homme et de votre création. Et on peut dire peut-être que tout commence par une rupture amoureuse pour vous.
Oui, en fait, je pense que la rupture amoureuse qui a déclenché quelque chose, une ouverture autre que ce que je pressentais de ce qu'était la relation de couple, la relation d'amour avec un homme, m'a amenée à aller au-delà de cette... cet alignement linéaire, c'est-à-dire de l'accomplissement de soi-même à travers le fait que nous rencontrons un homme, le fait que nous faisons avec cet homme des enfants, le fait que nous façonnons l'histoire de ce qu'est la famille et aussi de la représentation familiale au sein de la société. Voilà, il y avait puis aussi le fait que, parallèlement à ça, j'étais aussi, j'avais une démarche professionnelle qui s'articulait autour du monde de l'audiovisuel. Donc j'étais une femme complète déjà, mais j'ai été assez foudroyée par le fait qu'une rupture amoureuse pouvait me mettre dans un état de difficulté, comme une invitation à être dans des profondeurs, dans des méandres qui participent aux affres de la souffrance. Et parfois même, lorsque l'on crée, lorsque j'ai créé et que je me suis retrouvée en face d'une toile, je connais les préceptes des affres de la souffrance, parce qu'il me semble que l'art nous amène à cette réalité. Et j'ai était contraint-forcée à aller au-delà de moi-même, de ce qu'était ma représentation sociale, pour aller continuer dans les tréfonds de la connaissance de moi-même. Et c'est vrai qu'entre ma rupture amoureuse et l'art, j'ai pu réussir à continuer à me forger une identité qui est aujourd'hui la mienne, bien sûr.
Oui, c'est là où on se rend compte que finalement les épreuves sont souvent des porteuses de quelque chose qui nous amène à bouger, à trouver une plus grande profondeur dans notre existence, mm-hmm. dans le sens de notre vie.
Bien sûr.
Alors, avant d'aborder cette fameuse exposition à la Villette de peinture de sable, la rencontre avec votre destin, c'est le titre d'ailleurs du chapitre, eh bien, on va à nouveau vous entendre avec ce morceau Ozo Blues, toujours extrait de l'album La Beauty. Vous écoutez Aligre FM 93.1. Vous êtes dans Respiration. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Lorenza Garcia qui vient de publier un livre sur son expérience auprès des Navarros, paru chez Mama Édition. 20 ans auprès des Navarros, Osho, mon chemin sur la voie de la beauté. Alors, on suivait un petit peu la chronologie, le déroulé chronologique du livre et puis on arrivait, j'ai dit, à cette fameuse exposition. Alors, racontez-nous, Lorenza.
Oui, donc ça n'a pas été banal, je dirais, durant cette année-là. Donc, nous sommes en février 1996 à Paris, au parc de la Villette, dont je suis, comme vous le dites, en pleine déstructuration de ma vie sentimentale. Et donc, je vois, et en même temps, je prépare une exposition de peinture que je réalise à ce moment-là avec du sable et des pigments. Et donc, lors d'un achat de matériaux, je traverse donc la station de métro L'Opéra et je vois une affiche magnifique, que je trouve magnifique, qui s'appelle « La voie de la beauté ». Et « La voie de la beauté » rassemble plusieurs informations, dont celle de l'arrivée d'une délégation navarro au parc de la Villette. Et cette organisation est organisée par deux commissaires-priseurs qui s'appellent Jean-Pierre Barou et Sylvie Crossman, qui sont d'ailleurs ceux qui ont écrit la préface et la postface de mon livre. Et donc, Jean-Pierre Barou et Sylvie Crossman sont très liés à la culture et les connaissances ancestrales. Ils ont fait plusieurs manifestations de cet ordre-là. Et j'ai été, disons, frappée par une synchronicité parce que l'affiche représente un Amérindien, un Indien, donc Navarro, qui est accroupi et qui, de ses doigts chargés de sable, semble dessiner un dessin de sable coloré. Et donc, moi, à ce moment-là, je dessine, je peins avec le sable et je me dis, tiens, il y a quelque chose qui se passe. Mais je me dis surtout, pourquoi les Indiens Navarro parlent de beauté et viennent nous voir, nous rencontrer à Paris. Donc, mon souhait est de les rencontrer et je réalise un petit dessin de sable et en me disant, bon, bah, eux vont nous donner pas mal de choses qui concernent leur culture, et moi j'ai envie aussi de les rencontrer en leur donnant quelque chose. Voilà, donc j'arrive à me faufiler, il y a une foule monstrueuse, parce que cette exposition a rassemblé beaucoup de personnes, de gens qui sont venus de partout d'Europe, et donc j'arrive à me faufiler donc à travers le public, et je m'assois, je trouve une place, et je m'assois à côté d'une femme amérindienne qui fait partie de la délégation. À partir de ce moment-là, cette femme me parle, et les commissaires-priseurs pensent que nous connaissons. Donc il me demande de m'occuper d'elle et c'est ce que je vais me retrouver dans une situation auquel je ne m'attendais pas. Le lendemain matin, je vais la chercher à l'hôtel et je dois l'amener au laboratoire pour lui faire des analyses parce qu'elle ne se sent pas bien. Voilà. Bon, ensuite je la ramène donc à l'exposition, mais avant cela, elle me fait découvrir la voie du pollen. Et donc, elle ouvre un petit sac de peau et elle me demande de prendre une petite farine jaune et elle me demande de faire comme elle le fait. Donc, elle prend la petite farine jaune, elle la met sur sa bouche et je la mets sur ma bouche. Et ensuite, elle le met sur mon front et ensuite, elle le dirige vers le ciel et ensuite, elle le dirige vers la terre et elle me demande de faire un vœu. Donc, je fais la même chose, ne sachant pas exactement ce que ça veut dire. Et puis il se trouve que au fur et à mesure du temps, je vais continuer à aller voir les Navarro à l'exposition du parc de la Villette parce que un des hommes médecine qui sait que je me suis occupée d'un des membres de la délégation va m'appeler chez moi et va me demander de venir participer, disons de venir à l'exposition comme je le souhaite. Et il va m'expliquer au fur et à mesure du temps qui passe durant le moment où ils sont sur place ce qu'est le chemin du pollen parce que c'est quelque chose qui est particulier et continue à exister au sein des colonies, au sein de la communauté des Navarro et c'est un geste rituel qui est transmis de génération en génération. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Donc, j'arrive à expliquer pourquoi j'ai voulu les rencontrer, j'explique la signification de mon dessin de peinture de sable, je me présente en tant qu'artiste et je lui dis que l'art est absolument important. Et donc, pour eux, ils me disent que l'art n'existe pas. Seulement, voilà, moi, je suis une femme occidentale et je vois en plein milieu de cette exposition la possibilité pour eux de rassembler et le chant et les arts graphiques pour guérir. Donc, eux, ils ont la faculté de pouvoir rassembler ces deux façons de s'exprimer en guérissant donc un patient ou en guérissant une communauté tout entière parce que leur chant et leur peinture donc de sable sont dépositaires d'une cosmogonie, d'une connaissance qui a été transmise, et seuls les hommes médecine sont les garants de cet réalignement donc du monde invisible dans le monde visible. Donc je trouve qu'il y a une espèce de synchronicité, non seulement par rapport à ce que je vis, mais aussi par rapport à justement à ce peintre comme Jackson Pollock, qui lui aussi, à travers l'art abstrait, avait la possibilité de faire valoir une vibration particulière qui connecte entre le monde invisible et visible. Et je suis donc invitée par eux à venir les rencontrer sur place. Et ça va, je vais mettre à peu près un peu plus d'un an pour me décider à aller traverser l'océan, à laisser ma famille, parce que j'ai déjà mes enfants qui sont là, et à me retrouver complètement comme une aventurière dans un désert qui est absolument fabuleux et que nous connaissons par les grandes cartes postales qui sont Monument de Vallée et le Grand Canyon, mais c'est vrai que lorsqu'on se retrouve dans cette immensité, il y a quelque chose qui se passe. Et en plus, quand on vient rencontrer les Native Americans, il y a encore doublement quelque chose qui se passe.
Très bien. Alors, c'était donc Lily et Sam, ces deux personnes. Et
oui, c'est ça.
J'avais noté, elle vous fait vivre cette expérience avec le pollen. Elle vous dit en partant, tu dois penser au sable. J'ai trouvé ça très, très joli.
Oui.
Alors, durant ce voyage, en 97, j'ai juste un petit extrait qui m'a beaucoup plu. J'aimerais partager avec les auditeurs. Je suis touchée par tant d'immensité. La vie semble simple. Ici, je comprends pourquoi on prie. Alors, je prie. La magie de l'interdépendance, cette grande famille où tout est relié, m'ouvre ses portes. Rien ne manque, tout est là.
Oui, c'est très joli ce passage que vous avez pris, qui est extrait de mon livre. En fait, je me suis rendu compte qu'entre le moment où j'avais fait le vœu lors du chemin du pollen et puis au moment où j'ai découvert cette communauté et l'explication du chemin du pollen, je me suis rendu compte que... disons que il y avait déjà le début de mon souhait qui commençait à être réalisé, qui était manifesté dans la matière. Parce que porter à son front le pollen, ça permet de purifier les pensées. Et porter à sa bouche le pollen, ça permet de bénir son être tout entier. Et élever le pollen vers le ciel, puis le répandre sur le sol, ça permet de bénir tout ce qui est autour de soi, et en conséquence tout l'univers. Et à ce moment-là, j'avais vraiment besoin de m'ouvrir, de m'ouvrir davantage sur ce que j'étais. Le pollen de maïs purifie et génère et régénère, bien sûr, mais l'homme médecine explique que c'est comme les chrétiens et l'eau bénite, en fait. Il y a quelque chose qui est de cet ordre naturel, quoi. Donc le pollen peut porter chance à des souhaits et à des projets. Et l'immensité, ça m'a permis aussi de m'ouvrir à autre chose que le chemin du pollen. Ça m'a permis d'ouvrir à ce qu'ils appellent la beauté, évidemment, et aussi à Ojo, bien sûr. Et c'est pour ça que j'ai intitulé ce livre ainsi. On est sur un territoire vaste qui fait deux fois la Belgique et qui comprend les trois États qui sont le Nouveau-Mexique, l'Arizona et l'Utah. Et les Dinés sont plus de 300 000 parce qu'il y a eu le dernier recensement lors du Covid où ils étaient plus nombreux que le 300 000 qui était, je dirais, aujourd'hui l'avant-dernier recensement. Donc il y a plus de 175 000 qui vivent sur leur territoire. Mais il faut savoir que le peuple Navajo est un peuple qui a connu des moments absolument tragiques, des histoires de génocide, et qui ont été illustrées par la longue marche entre 1864 et 1868. Ils ont signé les traités de paix à ce moment-là. Et aujourd'hui, la nation Navajo est appelée aussi nation Dinée. Ils appellent leur territoire Dinée Bikeya. Et elle est considérée comme une nation souveraine.
Très bien. Alors pour les honorer, je trouve que ça s'impose de passer maintenant le morceau qui s'appelle Walk in the Beauty de votre album Up to You Too.
Mother Earth, a place to be. harmony for you and me. Our planet is all we need to see rather than believe. Walk in beauty. On walking in beauty. Ooh, ooh, ooh. Hey, 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 hey. Trees, birds, human beings sing together in harmony, and ourselves we must get proud, cheer the world up with our smile. Walk in beauty, walk in beauty, keep on walking in beauty.
Écoutez Aligre FM 93.1. Vous êtes dans Respiration et je suis en compagnie aujourd'hui, en belle compagnie avec Lorenza Garcia. Alors on était dans votre premier voyage auprès des Navajos et il y a un moment, une cérémonie avec un homme médecine puisque vous avez des crises d'asthme et un problème à la thyroïde. Mm-hmm. À cette époque, et vous allez y puiser de l'aide. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette expérience?
Oui, bien sûr. Donc, Walking Beauty, vous parliez donc de la chanson, c'est Marcher dans la beauté. Et Marcher dans la beauté, c'est relié à beaucoup, beaucoup de choses, mais essentiellement à un mantra navajo qui dit « Fasse que la beauté soit derrière moi, fasse que la beauté soit à côté de moi, fasse que la beauté soit en dessous de moi, fasse que la beauté soit au-dessus de moi, fasse que la beauté soit devant moi. Je marche dans la beauté est en moi, je suis la beauté. » Il faut savoir qu'à ce moment où on précise, où l'on dit « je suis », le « je suis » n'est pas relié du tout à la personnalité. Il est relié à quelque chose qui fait que, pour les dîners, la beauté est reliée au grand tout et nous avons en soi ce précepte de grand tout, ce précepte d'univers. Ils sont retournés sur leur territoire d'origine parce qu'il y avait aussi les quatre montagnes sacrées. Et lorsqu'on rassemble les quatre directions des quatre montagnes sacrées, parce que chaque montagne est reliée à un point cardinal, on se retrouve sous une voûte qui, pour eux, qu'ils appellent le Hogan. Et les cérémonies se font dans le Hogan. Le Hogan, c'est une structure octogonale dont la porte d'entrée est orientée vers l'est, et l'est, c'est le renouveau. Le renouveau, la renaissance, en lien avec le lever du soleil. Donc, chaque cérémonie, en tout cas ma cérémonie, qui a été réalisée par un homme médecine qui n'a pas fait de différence de par le fait que j'étais française, m'a invitée à comprendre que je rentrais dans un lieu sacré. Et que ce lieu sacré était symbolisé pour eux par, comme si nous étions invités à retourner dans le ventre, l'origine même de nous, d'où nous venions. Donc y a comme une espèce de chemin à faire entre ce que je vivais à ce moment-là et puis aussi ce précepte de retourner dans les entrailles du ventre, donc les entrailles du ventre de ma mère biologique, mais aussi les entrailles du ventre de la terre, parce que pour eux, c'est le organe, c'est le ventre aussi, retourner en lien avec l'origine du ventre, de l'origine du monde, c'est-à-dire le ventre de la terre mère. Donc il y a cette façon de se réaligner avec une connaissance et une énergie particulière que les hommes et les femmes médecine dégagent lorsqu'ils chantent et lorsqu'ils réalisent des peintures de sable. D'ailleurs, ils disent que le premier chant des cérémonies, c'est le chant du Hogan, parce que le Hogan permet de faire venir les êtres sacrés. Et donc, pour eux, ce sont les êtres sacrés qui leur ont enseigné le chant. Et ces chants sont destinés à leur foyer, afin que leur vie en famille soit en harmonie, en équilibre. Donc, j'ai été invitée à comprendre que l'on me, en quelque sorte, me racontait, mais genre contait une histoire, et qu'il m'était possible d'y croire, et d'intégrer tous ces préceptes d'une meilleure connaissance de moi-même, dans la mesure avec laquelle je me réalignais avec eux, par eux, et aussi avec mon histoire originelle qui existe indépendamment de mon histoire biologique et de mon histoire avec toutes mes lignées. Donc là, j'ai eu comme une possibilité de lâcher les peurs, lâcher les doutes, lâcher le manque de conscience de moi-même, lâcher le manque de connaissance de moi-même pour m'ouvrir à quelque chose qui me permettait de devenir moi-même quelqu'un de sacré, c'est-à-dire quelqu'un de vivant. Et ils m'ont dit pendant la cérémonie, maintenant tu es béni par les êtres sacrés et pendant un certain temps tu dois faire attention. Tu dois faire attention à tes pensées, tu dois faire attention à la manière dont tu penses, tu dois faire attention à tes gestes, tu ne dois pas te blesser et tu ne dois pas te faire blesser par le monde extérieur. Donc c'était quand même un moment de grande gratitude.
C'est très intéressant, d'ailleurs j'ai noté... bon, il s'agit de restaurer l'harmonie, hein, oui, constamment dans cette pensée, ce qui, oui, est très très beau. Et j'ai noté que l'homme médecine vous dit à un moment donné, je vois autour de toi des personnes dans la laideur.
Oui.
Et c'était très intéressant ce côté-là, je trouve.
Oui, ce qui était intéressant, c'est que parfois, on nous dit, hein, quand on est enfant ou quand on est ado, ou même au fur et à mesure qu'on grandit, parfois il se peut qu'on soit à notre insu... stigmatisé par des jugements qui nous mettent dans une situation, en tout cas moi ça m'est arrivé à plusieurs reprises, en étant un être quand même sensible, je me suis aussi retrouvée dans des situations où je me sentais déstabilisée et donc les êtres dans la laideur, c'est une façon de voir que parfois ce qui est essentiel, c'est de nous réaligner à quelque chose de plus grand pour ne pas rester dans ces préceptes de jugement qui existent dans ce ici-bas sur Terre. Et parfois, on s'identifie à cela et ça nous met dans une espèce de relation duelle, de division, alors que les dînés disent qu'il faut vraiment rester aligné et manifester... l'harmonie en soi et tout autour de soi pour être dans sa mission de vie aussi, savoir honorer ce que le grand mystère nous a donné. Et là, en ce qui me concerne, le grand mystère m'a donné la possibilité, à travers l'art, de pouvoir manifester une sensibilité particulière qui fait que... que l'art, pour moi, est vraiment un outil qui permet d'exister. Et c'est ce que j'enseigne aujourd'hui.
Alors, je voudrais, dans la continuité de ce que vous venez de dire, vous lire. Laissez passer mon passé, mettre de la beauté derrière moi, du beau dans ma musique, mes films, mes activités artistiques autour de Ozo. Peu importe les peurs et incompréhensions générées par le monde extérieur, un monde décousu, compressé, formaté, Celui-là a bien l'art d'activer en nous les mécontentements, les plaintes et les insatisfactions, les tiraillements émotionnels, les pensées contradictoires, les scénarios répétitifs. J'étais faite pour participer au tissage harmonieux de la toile effilochée du vivant. C'est beau ça.
Oui, merci de pouvoir extraire ce texte du livre. Ce qui m'impressionne et ce qui continue à m'impressionner chez les Dinets, c'est qu'ils ont vécu tout ce qu'on connaît. Ils ont été aussi maltraités durant l'extraction de la matière première de l'uranium au moment de la montée de l'industrialisation, où les sociétés extractrices américaines leur demandaient d'ouvrir les mines d'uranium, et donc parce qu'il y avait besoin de cette matière première. Au moment où ils l'ont extraite, ils n'ont pas été protégés, donc ils ont subi des gros problèmes de santé. Voilà, c'est un peuple qui a connu beaucoup de souffrances, et rencontrer une culture comme celle-là, c'est rencontrer aussi la blessure d'un peuple. Et là, pour eux, ce qui est important, c'est de mettre de la beauté. Peu importe ce qui se passe, il faut pouvoir avoir la conscience de soi à l'heure que nous vivons aujourd'hui, donc l'instant présent est essentiel. Mais ce qui est essentiel aussi, c'est de créer un monde meilleur tout le temps. Et c'est par la beauté, par l'harmonie, par le ojo, qui veut dire plein de concepts, que c'est possible. Et que c'est possible de le faire ainsi pour ne pas retourner dans la mécanique des peurs et des souffrances. Voilà, ça c'est une de leurs manifestations. Et il faut savoir que c'est le seul peuple à être retourné sur leur territoire d'origine, alors que... ils étaient traités comme des esclaves, et c'est pas évident de vivre dans une réserve à l'heure d'aujourd'hui.
Très bien. Je propose de les écouter maintenant au travers de ce morceau Navajo Fire Dance Song, The Native American Indian. Vous écoutez Ali FM 93.1. Chers amis, j'ai oublié de vous
vous inviter à la danse sur ce dernier morceau de la programmation, mais vous l'avez sans doute fait naturellement. Nous, on dansait dans le studio. Alors, je suis aujourd'hui avec Lorenza Garcia. Et je dirais, j'avais envie de vous citer encore sur cette très belle phrase, je trouve, à propos de la beauté. La beauté n'est pas séparée de la bonté. Chacun sait qu'au fond de soi se trouve la pépite d'or, un système qui ne connaît pas la séparation.
Mmh. Oui, absolument. La beauté, donc, c'est Ozo, hein, puisque voilà, c'est comme ça qu'ils le traduisent. Ils mettent la beauté au cœur de leur philosophie. Et Ozo, c'est la beauté, la joie, l'amour, la compassion. La prospérité, l'humour, la conscience, la paix, l'harmonie, l'équilibre, le succès, la réussite. Et donc, c'est tout cela réuni. Ça n'est pas cela plus cela. C'est un ensemble de choses qui constitue le précepte de beauté qui est transcrit par le mot « ozo ». Donc, pour nous, nos sociétés occidentales, comment faire? On a eu tendance à séparer les choses. Et quand on court auprès de la beauté, après on se rend compte qu'il faut courir auprès de la santé, après il faut courir auprès de la prospérité. Voilà. Eux, c'est tout un ensemble de choses. Et cet ensemble de choses permet de nourrir le cycle de la vie. Donc nous sommes un cycle et nous sommes entourés d'un cycle qui est tout autour de nous et qui est aussi le cycle de la terre-mère. Donc certains hommes et femmes médecines m'ont expliqué l'importance d'apprendre à pacifier les situations conflictuelles et d'éviter les confrontations du face-à-face, ça c'est essentiel. Et l'essence même de Ozo ne s'étend pas uniquement sur la notion de bien-être personnel. C'est un bien-être qui constitue soi vis-à-vis du collectif. Si par exemple moi je suis moins Ozo, eux le seront moins aussi. Donc ce précepte d'interdépendance est absolument essentiel. Et les femmes sont dépositaires aussi de ces connaissances, parce qu'on est dans des sociétés matrilinéaires, matriarcales, et le système de gouvernance, y compris le système de la justice, qui est souvent représenté par une femme juge, souvent ce sont les femmes qui sont juges, expliquent bien cela à travers leurs actions. Elles manifestent le lien vital avec la terre-mère, avec la déité qui fait partie de leur cosmogonie, qui s'appelle femme changeante et qui est considérée comme une mère suprême qui possède les caractéristiques telles que la gentillesse, la bienveillance, la force, la bonté et la beauté.
Alors à propos des femmes, j'avais envie d'évoquer aussi vos différentes actions au sein de votre association Navarro France, hein, c'est bien ça?
Oui.
Donc vous avez participé ou organisé une réunion avec des femmes autochtones, chanteuses et joueuses de tambour.
Oui, bien sûr. Alors, j'ai pu réaliser donc plusieurs documentaires qui parlent des communautés amérindiennes. Le premier a été le Navarro Sangline et qui illustre toute l'histoire des dîners Navarro et de la manière avec laquelle que j'ai pu les rencontrer en tant qu'artiste. Et puis, j'ai pu aussi également réaliser un documentaire qui s'appelle « Le chant qui guérit la terre » et qui, pour le coup, illustre le témoignage de 60 femmes amérindiennes qui sont toutes joueuses de tambour et qui vivent entre eux le Nouveau-Mexique, l'Arizona et essentiellement la Californie. Parce que d'autres communautés amérindiennes celles que j'ai rencontrées qui vivent en Californie, n'ont pas eu la possibilité de retourner sur leur territoire d'origine. Donc ces femmes, elles sont Cheyennes, elles sont Sioux, elles sont Comanches, elles sont Apaches, elles appartiennent à plusieurs tribus amérindiennes. Et elles ont décidé de s'émanciper, de prendre leur tambour, de s'émanciper parce que pour eux la terre est en danger. Et tous ces peuples réunis disent qu'ils sont en lien avec la souffrance de la terre-mère parce qu'ils considèrent que la terre est un être vivant et qu'elle a un cœur. Donc ce film a été vraiment un film innovateur pour nous, société occidentale, autour de l'articulation du lien non seulement avec le rythme, et j'en reviens au rythme, le battement du cœur de tambour qui n'est pas séparé du battement du cœur de notre propre cœur et qui n'est pas séparé du battement du cœur de la terre-mère. Et donc, leur renseignement constitue le fait que les femmes participeront au changement du monde. au changement du monde qui vient. Ça passera par les femmes. Et ce qui est important, c'est que, bon, évidemment, la sororité est un mot qui a été à un moment donné très, très, on en a parlé souvent dans nos sociétés, mais ce qui est essentiel, c'est que les femmes ont des choses à faire entre elles. Et elles ont des choses à faire entre elles pour aussi l'évolution des hommes. Hein, c'est ça aussi qui est essentiel.
Tout à fait. Et en fait, c'est être constamment dans le lien, finalement, cette expérience, puisque vous allez aussi faire une rencontre avec les peuples des déserts du monde.
Oui, donc il y a eu cette rencontre avec les peuples des déserts du monde. Ça a été très, très puissant. J'ai été contactée à un moment donné par la Fondation des peuples des déserts du monde. Et donc, nous avons, avec la délégation Navarro, qui était constituée de membres du gouvernement Navarro et d'autres membres, des artistes et tout, on a rencontré donc beaucoup, beaucoup de peuples issus, inscrits dans l'histoire du désert du monde. Donc, il y avait donc le désert du Sahara, les gens du Sahara, enfin, les domaines. Enfin, tous ces peuples-là étaient des nomades. Ils sont encore considérés comme des nomades plus que comme des sédentaires. Ce qui a été essentiel, c'est de voir qu'il y avait une universalité dans leur dialogue, dans leur façon d'offrir leurs connaissances à travers la danse et le chant. Il y avait une facilité à échanger leurs costumes, leurs tambours, leurs flûtes. Et donc, ils étaient aussi surpris que les Amérindiens, Navarro, que les Indiens, existaient toujours, parce que pour eux, ils pensaient qu'ils avaient complètement disparu.
Mmh. Extraordinaire comme expérience. Alors pour finir, il nous reste quelques minutes. On ne peut pas ne pas évoquer Pierre Rabhi, votre ami Pierre Rabhi, et Ozo Farming.
Oui, bien sûr, Ozo Farming. Bah oui, Pierre, donc, il a été essentiel aussi pour moi. Pierre était un homme du désert, du Sahara. Et donc, il m'a soutenue pour que je puisse mettre en place un projet qui accompagne la réhabilitation d'une éco-agriculture dans les fermes en territoire d'Iné. Et cet échange, c'est associer les préceptes de l'agriculture traditionnelle à des innovations touchant à l'utilisation dans le désert de pratiques agroécologistes cohérentes et en lien avec les contextes climatiques qu'il rencontre aujourd'hui, climatiques et culturels. Donc, ces enseignements ont permis à une délégation de paysans navarro en juillet dernier de rencontrer des paysans français. Il y a eu toute une dizaine de jours absolument fabuleuse où il y a eu une possibilité aux paysans navarro et aux paysans français de se rencontrer et de voir comment il était possible de réhabiliter en fait toutes ces connaissances. Les Navarro disent que nous sommes un seul peuple sur une seule planète et qu'il est important d'apprendre des uns et des autres parce que c'est en apprenant des uns et des autres qu'on pourra faire évoluer les états d'esprit à l'heure d'aujourd'hui et combattre les monstres qui existent à cette période de cette transition compliquée que nous vivons tous à l'heure d'aujourd'hui. Donc,
ceux qui sont dans la laideur.
Ceux qui sont, voilà. Ça, exactement. Ça demande du courage hein, aussi. Hein, c'est les messages symboliques et les messages interculturels demandent du courage parce que il faut du courage pour tout ça, pour transcender la laideur et les monstres.
Oui, il nous en faut beaucoup, beaucoup.
Beaucoup, beaucoup.
Oui, c'est vrai.
Et donc, c'est ça. Ils se disent, les Dinés se disent des peuples forts et en même temps fragiles. En même temps, hein, ce qui est important, c'est de ne pas les idolâtrer en termes de fantasmes. Hein. On a toujours eu un fantasme sur le mythe du sauvage. Mais non, pas du tout. Hein. Ce sont des êtres qui vivent complètement entre tradition et modernité. Ils ont des téléphones portables, ils boivent du coca, ils portent le jean. Et lorsqu'ils font une cérémonie, ils n'ont pas forcément des plumes. Ça, c'est aussi essentiel. Et grâce à ça, j'ai aussi eu la chance de pouvoir, en tant que personne initiée, de manifester les enseignements aux zoos à travers mes ateliers aux zoos vie que je mets en place régulièrement, un week-end par mois. Et donc, selon la thématique proposée, je permets à n'importe quel individu de découvrir durant deux jours la pensée symbolique et inspirée de ces peuples autour des apprentissages, de la fonction du chant et de la fonction des peintures de sable.
Ben, un grand merci, Lorenza. Je suis vraiment convaincue que cette pensée, cette sagesse peut nous apporter beaucoup à nous, peuples du monde.
Oui, absolument. Elle peut nous apporter et elle peut aussi nous permettre de sortir de notre vision du monde d'aujourd'hui et de nous regarder droit dans les yeux, de cœur à cœur, ce qui va nous permettre de nous rapprocher de notre propre racine, hein, parce que nous avons aussi nous-mêmes des racines à honorer en tant que Française. Mais ce qui est essentiel, c'est changer notre attitude personnelle et individuelle pour transformer le monde en quelque chose de meilleur.
Merci beaucoup pour Merci. Votre venue, pour ces belles paroles. Et Merci. Je vous invite vraiment à lire ce livre qui est excellent. Et vous trouverez... On n'a pas pu tout aborder, on n'a pas assez de temps dans l'émission, mais vous trouverez beaucoup de sagesse et d'anecdotes. Je recommande également les deux documentaires de Lorenza que j'ai vus et qui sont très, très chouettes. Et nous, on se retrouve le 26 mars pour le thème suivant, connaissance spirituelle et énergétique millénaire. Ce sera aussi une rencontre avec une très belle personne, Rahul Bharti, qui est un guérisseur indien d'exception, fondateur du centre international Healing Hands Center. Alors, je remercie Enrico Mastro Giovanni.
Italien, Enrico.
Pour la technique aujourd'hui, je vous souhaite à toutes, à tous une lumineuse journée, une lumineuse soirée. Je ne me suis pas encore habituée au nouvel horaire.
Merci Louise, merci tout le monde, merci à la technique.
5 minutes pour respirer, 5 minutes pour s'aérer, 5 minutes contre la pression qui monte.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.